J'étais un blouson noir tardif.
Qu'est-ce que vous faisiez en tant que blouson noir?
Tout, quoi. Toutes les stupidités qu'on peut faire à cet âge-là. Mais moi, je la faisais quand même un peu littérairement, cette sorte de révolte. Elle était quand même basée sur Rimbaud, Apollinaire, c'était assez sérieux, quoi. Dans le fond, au lieu de danser devant le jukebox, je faisais du surréalisme.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Non, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Amaury Chardot.
Une page d'histoire mise en récit et en musique. Jukebox, qui a pris ses quartiers d'été, vous propose chaque samedi et chaque dimanche à 19h une série de rediffusions. Bonsoir à tous. Ce soir, nous reviendrons sur un phénomène ancien, mais qui, à chaque fois, prend en défaut les sociétés qui les ont engendrées, les bandes de jeunes délinquants. Il y a 60 ans, l'été 1959, la France découvre avec stupeur l'existence des blousons noirs, ces adolescents désœuvrés qui se rassemblent dans les squares, les friches, s'occupent bruyamment, écoutent du rock, jouent aux flippers et clament leur haine des flics, des bourgeois et de l'ordre établi. Rapidement, tout le monde s'emballe et l'on se souvient que quelques décennies plus tôt, Paris avait connu un épisode similaire avec ceux que l'on nommait alors les Apaches. Ce soir, des Apaches au blouson noir, peur sur la ville. Paris, juillet 1959, Square Saint-Lambert, dans le 15e arrondissement, un quartier plutôt résidentiel situé non loin de la gare Montparnasse. Encaissé parmi les immeubles de briques des années 30, ce petit jardin a été dessiné sur les décombres d'une ancienne usine à gaz. Le promeneur peut y méditer autour d'une pelouse centrale, parmi les bancs et les allées ombragées. Il peut aussi contempler le bronze de deux jeunes oursons en train de jouer, ou bien un bas-relief réalisé en 1939 et où le sculpteur Auguste Guénaud a figuré dans un style art déco une allégorie de la jeunesse, des bambins ruant dans les jambes d'un groupe d'adultes. Le Square Saint-Lambert, comme tant d'autres espaces verts parisiens, c'est le royaume des familles et de l'enfance. Les adolescents, eux, peuvent bien sûr rêvasser et se souvenir que c'est de là qu'étaient partis pendant le siège de 1870 deux dirigeables emportant journaux et courriers. Mais à part ça, ils n'ont rien d'autre à faire que de respirer l'ennui et la mélancolie de ce repli assoupi de Paris sous l'œil des voisins. C'est pourtant là que, ce vendredi 24 juillet 1959, s'est rassemblée une petite centaine d'adolescents. Visage fermé, arborant ceinturons à boucles de cuir, ce sont les membres de la bande du quartier dite de Saint-Lambert. Ils ont donné rendez-vous à d'autres types, ceux de la bande de Pernetti, pour en découdre. On ne connaît pas le motif de l'embrouille, peut-être simplement l'ennui d'un été en ville. Or, les mecs de Pernetti ne viennent pas, et tandis que les quarts d'heure s'égrènent, ceux de Saint-Lambert commencent à s'agiter. Quand ils comprennent que les autres se sont défaussés, les adolescents s'échauffent et se dispersent dans le chaos, bousculent, insultent des passants, mettent le bordel dans un bistrot voisin. Certains d'entre eux sont munis de tuyaux de fer. Mais des voisins jureront aussi avoir vu des chaînes de vélo, des martinets, des points américains, voire des crans d'arrêt. La police intervient finalement, embarque deux douzaines de gamins et le quartier en est quitte pour une bonne frayeur. Le lendemain, 25 juillet, à l'autre bout du pays, sur la commune de Bandol, dans le Var. Dans la soirée, sur le bord de Plaisance, se tient un bal à l'attention des habitants de cette petite station balnéaire et des estivants venus profiter des voiliers, des vignobles plantés en terrasse, des collines descendant vers la mer et des baignades dans les calanques. ou bien sur la plage du Barry, où 15 ans plus tôt, celui qu'on appellera plus tard le commandant Cousteau avait testé son premier scaphandre sous-marin. Bref, tandis que le bal bat son plein, deux jeunes Toulonnais se pointent, mais sont refoulés par les locaux, au prétexte que la fête serait réservée aux touristes. Les Toulonnais promettent de revenir, et de fait, par un prompt renfort, ils sont une bonne vingtaine en revenant au port. Les locaux les attendent de pied ferme, et la bagarre dégénère, à coups de chaînes de vélo et de bourdins. Un pêcheur est gravement blessé, 9 autres personnes plus légèrement. Les heures suivantes, tandis que le reste du pays profite sereinement de ses congés et d'un été ensoleillé, les journalistes, traditionnellement aux abois en cette saison, se ruent sur les deux événements et, dès le lundi suivant, plongent la France dans la stupeur, lui révélant la menace qui se profile à l'horizon, celle de l'explosion d'une partie de sa jeunesse, indocile et violente, cela même que tout un chacun a pu observer ces derniers temps, arborer d'inquiétants blousons de cuir.
En blue jeans et blouson de cuir, tu vas rejoindre les copains. Si tu ne vas pas, qu'est-ce qu'ils vont dire quand tu les verras demain? En blue jeans et blouson de cuir, tu te crois en liberté. Te contredire, ça blesserait ta dignité. En blue jeans et blouson de cuir, tu taquines les jupons. Vise-moi dans sa quelle allure, t'as une affiche au pantalon. Un petit rien te fait rougir. Va, profite de la leçon. T'es pas fait pour jouer les durs.
Salvatore Adamo, en blue jeans et blouson de cuir, 1962.
Ce matin, Duncan, menacé par l'orage, pas un tricheur, pas un teddy boy, pas un blouson noir à l'horizon. Toutefois, une dizaine de ces rognures de Nervi a pu être arrêtée, et à l'heure où je vous parle, ce joyeux groupe a déjà été présenté au procureur de la République. Moyenne d'âge, 18 ans. 18 ans d'imbécilité, 18 ans de mauvais films, 18 ans de parenté irresponsable, et tous les espoirs sont permis pour un avenir brillant, mais oui maman, mais oui papa. Ici Tommy Franklin à Cannes, Radiodiffusion Télévision Française.
À l'image du reporter de la RTF Tommy Franklin à Cannes ce 10 août 1959, la presse saute sur l'occasion avec une étonnante virulence. Et ce d'autant que d'autres incidents violents ont eu lieu les jours suivants au Sable d'Olonne, à la Seyne-sur-Mer, à Rouen, à Dijon, à la Bastille. Les reporters n'hésitent pas à en rajouter, gonflant le nombre des assaillants, des blessés ou la nature des armes employées. Les titres annoncent une inquiétante poussée de délinquance juvénile en France, multipliant les qualificatifs. Nervi, mauvais garçon, vaurien, Tricheur, en référence au film de Carnet sorti l'année précédente. Les services de la préfecture de police de Paris, eux, utilisent l'abréviation JV pour jeunes voyous. Et toute la France s'interroge soudain sur ces jeunes qu'on voit glander en bas des immeubles le soir, faisant pétarader leurs mobilettes. Cette jeunesse feignante qui, dit-on, ne veut plus bosser, fait preuve d'insolence et de rébellion et malmène les honnêtes gens. On se souvient que 4 ans plus tôt, l'été 1955 déjà, Paris avait connu 3 jours et 3 nuits d'émeutes lorsque 2 bandes rivales s'étaient affrontées à coups de chaînes de vélo et de barres de métal sous l'œil impuissant des policiers. Soucieux d'éclairer les choses, un an plus tard, en novembre 1960, Pierre Dumayet et l'équipe de 5 colonnes à la Une consacrent une émission au phénomène, rassemblant pour l'occasion dans un café de Pigalle les membres de la bande du quartier voisin des Batignolles, autour de son chef, un certain Pilule.
Vous ne savez pas qui sont ces garçons, Pilule vous les présente.
Il y a Boboy, lui qui est plombier, qui a 20 ans. Il y a Bébé, qui a 18 ans.
Qu'est-ce qu'il fait Bébé ?
Bébé, il est graisseur, dans un garage. Serge, qu'on appelle le martyr, puisque chaque fois qu'on se faisait arrêter par les flics et qu'il y avait une corrida, que toujours les flics cognaient la gueule au point qu'il en était marqué.
C'est moi qui, à chaque fois, qui prend les coups sur la gueule. Et pourquoi ? Parce que renflé. La première fois que je me fais rencharder, c'est rue de Lévis. On revenait de se promener de par là-haut. Il paraît qu'on avait attaqué les vieilles et les grosses conneries comme ça. Alors moi, j'ai essayé de me sauver, c'est normal, j'étais pas habitué à ce genre de machin, je me suis jamais fait gauler par les flics. Alors il y en a qui me rattaquent par les ponts à coups de savate, à coups de tout le cinéma. Alors comment vous voulez les aimer aussi ?
Dis donc, quel genre de bêtises tu te permets de faire, toi ? Quel est le maximum que tu te permets de faire ?
Ce que je pourrais vous dire.
Tu peux répondre à cette question ou pas ?
Si, je peux vous répondre si vous voulez. Quoi ?
On merde. Demande.
Ouais, d'accord, on merde un peu les gens. Crier, chanter au milieu de la rue. Qu'est-ce qui les gêne ? Parce que déjà, permettez-moi de vous le dire, comme je l'ai dit en face un jour d'un adjoint commissaire, la société nous aime pas les jeunes. On aime pas les jeunes. Hein ? Faut dire qu'est-ce qui est aussi, si.
Qu'est-ce que vous faites le dimanche ?
Oh, dimanche, on va à la patinoire.
À quelle patinoire vous allez le dimanche ?
Fédéral. Fédéral Biancourt, Marcel Samba.
Toujours à la fédérale ?
Oui, toujours à la fédérale.
Pourquoi ?
Oh, c'est trop noble.
C'est la meilleure ambiance.
Est-ce que vous arrivez d'aller au bal quelquefois ?
Oh, c'est assez rare.
Non, chez nous, en général, les gars, ils dansent pas.
Non ? Ça amuse pas ?
C'est pas que ça les amuse pas, c'est parce qu'ils n'ont jamais essayé. On leur a déjà fait aimer la patinoire, c'est déjà pas mal.
Pourquoi vous allez tous au patinage,
les filles ? Ben, pour plusieurs raisons. Oui, il y a des filles qui vont tous les dimanches. En plus de ça, c'est un peu la roue tournante des blousons noirs, si on peut dire. Il y a tous les copains là-bas, de tous les quartiers. En plus de ça, c'est une journée pas chère, quoi, on s'amuse bien.
Serait-ce donc ces gosses aimant le dimanche aller tourner en rond sur la glace d'une patinoire ou rougissant de danser devant les filles qui, en d'autres circonstances, se montrent si menaçants, clamant leur haine des bourgeois, des snobs, des flics, des patrons, des vieilles, des homosexuels, des étrangers, bref, de tous ceux qui ne leur ressemblent pas ? Qui sont donc ces dangereuses bandes de voyous qui n'aiment rien tant que se foutre sur la gueule ?
Si vous cherchez la bagarre... Vous êtes venu à la bonne place. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Et je n'aime pas beaucoup qu'on m'en remonte. J'avoue que la bagarre, je ne suis pas con. Ça me fait pas peur. Ouais. Je dirais même que j'aime cogner. C'est un plaisir. D'accord les gars, je vais vous soigner. Si c'est pas pour la bagarre, alors c'est pour mon fric. Vous tombez bien, blague à part. Sur moi j'ai plus d'une brique. Mais avant il faudra passez par moi. Je vous prends un par un, ou bien tous les trois. Ça me fait pas peur. Je dirais même que j'aime cogner. C'est un plaisir. D'accord les gars, je vais vous soigner.
Ah,
Johnny Hallyday adaptant le Trouble d'Elvis Presley pour cette bagarre enregistrée lors d'un concert à l'Olympia en 1962. Mais alors, d'où vient-elle cette violence? Pas besoin de creuser bien loin pour trouver les premiers éléments de réponse. Retour dans ce café de Pigalle et extrait du même 5 colonnes à la une, novembre 1960.
Il y a combien de temps que tu fais partie de la bande?
Ça fait un an.
Qu'est-ce que tu faisais avant?
J'étais chez ma mère.
Et puis tu es parti?
Non, elle m'a viré.
Comment ça?
Oh, bah, elle avait un jus, elle m'a foutu à la lombe.
Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là?
À ce moment-là, j'étais tireur de plan.
Et comment ça s'est passé?
Quand elle m'a viré?
Oui.
Oh ben, ça faisait déjà 2-3 jours qu'elle me donnait pas à bouffer, alors j'avais demandé une avance sur ma paye.
Ouais.
Puis juste quand je rentre, j'avais mon avance, je suis rentré, quoi, j'étais habillé, elle me dit fous-moi le camp. Alors j'ai pris la porte, je me suis barré.
Qu'est-ce que tu as fait?
Oh ben, j'ai été... La première chose que j'ai fait, j'ai bouffé. Ensuite, j'ai été au cinéma. Et après le cinéma, ben, je me suis barré dans Paris, quoi. Tout au mois de janvier, alors il faisait un peu froid. Puis ça a fait ça pendant 5-6 jours. Puis ensuite, c'est un lundi, quoi... Là, on m'a retrouvé de quoi coucher. Alors, j'ai couché là, chez des personnes, chez Mme Amoré. J'ai couché pendant 2 mois. Et après, ils ne pouvaient pas me garder. Là, on a trouvé deux autres personnes pour me prendre.
Le tribunal qui t'a placé?
Ouais, le tribunal. Deux autres personnes qui m'ont pris, quoi. Ils m'ont gardé pendant 2-3 mois, mais alors là, ça n'allait pas. Il y avait des fils et des filles à la messe tous les dimanches et au VEP, alors c'était pas mon genre, ça.
Some of these days, I feel so lonely, baby.
Ne leur parlez pas de religion, ni de politique d'ailleurs, tout ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils aiment, c'est aller au cinéma, au kino, comme ils disent. Ils idolâtrent James Dean et La Fureur de Vivre, L'Équipée Sauvage de Marlon Brando, Jean Gabin ou Elvis Presley, dont les portraits ornent les murs de leur chambre. Ils aiment traîner dans les fêtes foraines et tourner en rond sur leur mobylette dont ils ont retiré le pot d'échappement. Beaucoup vivent en banlieue des grandes villes, dans ces cités qui commencent à inquiéter. Ils se regroupent au pied des barres de béton, dans ces quartiers dont on se rend compte qu'ils ne comportent rien pour eux, pour cette jeunesse, ni terrain de sport, ni centre culturel. En ville, dans les quartiers populaires, ça n'est pas beaucoup mieux. Une enseignante, cette année 1959, diffuse un texte où elle alerte. Se rend-on compte que toutes les places, les grands trottoirs qui servaient aux enfants, sont maintenant transformés en parking? Défense est faite aux enfants de jouer dans l'appartement, défense de jouer dans la cour, la rue appartient au moteur, le trottoir aux étalages et aux vitrines. Quand ils ont 10 balles, ces types filent au café, jouent au flipper, font chanter le jukebox. Plus souvent, ils échouent dans les squares où ils blaguent, parlent de cul, jouent de la guitare, roulent des mécaniques, rêvent d'emballer des gonzesses, d'avoir du pèse et de chouettes bagnoles pour se casser sur la côte. Mais invariablement, le voisinage se plaint et les flics se pointent. Revient souvent alors dans leurs propos le manque d'un espace à eux, un local comme ils disent, pour pouvoir se regrouper tranquillement. Faute de quoi, ils investissent les squares de Paris et les derniers terrains vagues subsistant au pied des HLM de banlieue.
Que les coins de mousse sont toujours loin de nous, on se rencontre en douce à deux pas de chez nous, sur le grand terrain vague qui est depuis toujours notre palais de Prague, notre jardin d'amour. Quand le vent fait des vagues avec tes cheveux fous sur le grand terrain vague, le printemps est si doux. Et quand la nuit est sombre, nous allons nous cacher, protégé par son ombre, pour mieux nous enlacer. Dans l'ombre solitaire, il fait peur aux enfants, tant mieux si son mystère éloigne les passants. Quand il pleut, quand il neige, quand il vante partout. Pour nous deux, c'est l'auberge des plus beaux rendez-vous.
Le chanteur Jean Siegfried pour ce Terrain vague, générique du film du même nom signé Marcel Carné, est sorti en 1960, pâle remake de La Fureur de Vivre, mais qui a le mérite d'aborder pour la première fois en France la question des blousons noirs et des grands ensembles. Reste la violence incontestable d'une partie de ces jeunes qui, lorsqu'ils s'ennuient de leur entre-soi, s'en prennent avec rage à tous ceux qu'ils croisent, membres d'une bande rivale, étrangers, arabes, homosexuels, gueules de bourge ou simples passants. Parfois même, on se bat sans raison pour défendre son bar, son territoire, pour s'imposer, pour s'affirmer, pour s'occuper. Et puis, on pique, on vole, on chourave, des disques dans les grands magasins, des transistors, des appareils photos, tous ces symboles de la modernité, mais aussi de la bouffe dans les supermarchés. On fracasse des distributeurs de chewing-gum pour récupérer quelques centimes. Sans même parler du pire, comme les viols collectifs, dont le nombre double entre 1960 et 63. Les blousons noirs ont beau répondre qu'ils s'emmerdent, que leurs familles ont éclaté, que la bande au moins leur tient lieu de refuge, qu'entre eux ils se sentent plus forts, là on ne rigole plus du tout. Et tandis que la France s'effraie du phénomène, certains font le parallèle avec ceux qui avaient fait jadis trembler Paris, faisant de la capitale un nouveau western.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessein. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc. Oncle Sam me doute, Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. On dit gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se part sous, des types se baignent pour des motifs futiles comme dans les nouveaux westerns. Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, le Kulik et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moine dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Moderne.
France Culture, Jukebox, aujourd'hui, Apache et blouson noir, quand la jeunesse se lâche.
Sitting Bull, Cauchy, Calamity Jane, Jam, West, West. Tomahawk, 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 le nouveau western.
Loveless. Paris, en 1900, était donc devenu un nouveau western. Pas seulement parce qu'à l'époque, la France raffole des romans d'aventures américains comme Le Dernier des Mohicans ou que la troupe du Wild West Show de Buffalo Bill a fait escale sur place en 1889. Si Paris se change alors en Far West, c'est surtout parce que certains individus semblent, à la manière de tribus récalcitrantes, résister à toute tentative de soumission. Des bandes de jeunes délinquants qu'on a surnommées les Apaches.
Les Apaches, à nous les sages, les langues avirones, les longes d'assassins, pour le bidon des Roussins et pour le ventre des casseroles.
Les Apaches. Le terme est apparu dans la presse en 1900 pour désigner une bande de jeunes des hauteurs de Ménilmontant. Ménilmuche qui, avec Belleville, Charonne ou la butte Montmartre, ont été rattachés à Paris 40 ans plus tôt lors des travaux du baron Haussmann. Dans ces faubourgs traînent tout un tas de types qui se constituent en bandes de quartier, voire en bandes de rue. On trouve la bande des quatre chemins d'Aubervilliers, les gars de Charonne, les Montant-l'air des Batignolles, les loups de la butte. Ces types ont souvent partagé les mêmes bancs d'école, des écoles qu'ils ont quittées tôt pour mener une vie de vagabondage, de petits larcins, de vol à l'étalage, des actes qui les ont envoyés de maisons de correction en bataillon d'Afrique via la case prison, laquelle prison constitue pour eux un grade honorifique. Âgés de 15 à 20 ans, ils refusent de se plier aux normes. Hors de question d'aller perdre son temps et sa santé dans les ateliers et les usines, de se soumettre aux contremaîtres sadiques. Ceux qui travaillent sont des imbéciles, les ouvriers, des esclaves avachis. Eux, à la place, flânent, fument, boivent, draguent des filles et soignent leur apparence. Casquettes vissées sur des cheveux lissés et pommadés, vestes courtes et cintrées, pantalons pas de def, foulard autour du cou, bottines à bout pointu ou espadrilles. Pour gagner de quoi vivre, ils s'adonnent à tout un tas de petits larcins. Ils deviennent vite la cible des policiers, à qui ils vouent une haine sans bornes, couvrant les murs de slogans hostiles « Abat les flics, mort aux vaches ». Entre eux, ils dévident le jar, jaspinent l'argomuche, causent un argot qu'ils fleurissent sans cesse afin de ne pas être compris des autres. De la renifle, les flics, comme des gonciers, les bourgeois. Leurs parents ont été chassés du centre de Paris par Haussmann. Eux le réinvestissent et sillonnent Montparnasse, la Maube, le quartier de Maubert, la Mouffe, Mouffetard, les Halles, Sébasto. Ces rois des boulevards dépouillent là les bourgeois comme les petites gens. Ils se retrouvent aussi, le soir, à l'abri des regards, parmi les baraquements érigés dans les fortifs, les anciennes fortifications qui entourent Paris.
Il y en a qui viennent au monde vénard, d'autres au contraire, toute leur vie sont guignardes. Mon père était, paraît-il, un porc, ma mère était boniche dans sa maison. Le patron lui ayant fait du boniment, et de plus lui ayant fait un enfant, ma pauvre daronne par la patronne fut balancée en vitesse et comment. Pour me nourrir, ma mère devint catin, et moi depuis je suis devenu un bourrien. C'est nous qui sommes les hiboux, les apaches, les voyous qui n'en foutent pas un coup. Dans la journée, nous planquons nos mirettes, mais le soir, nous sortons nos casquettes. Nos femmes traînent sur ces bateaux, pendant que nous, chez le bistrot, dans un coin bien au chaud, on fait sa petite pelote avec des mecs comme nous, des coquins, des apaches, des hiboux. Faut pas se tromper, nous ne sommes pas bons à tout. On est des poisses, des cossards, et c'est tout. On nous rencontre jamais sur les boulevards, seulement le soir pour chasser leurs cafards. Les gens rupins, les blasés, les vicieux, avec leurs poules qui nous font les doux yeux, viennent dans nos bouges boire du vin rouge, et en dansant, elles nous appellent au monsieur. On sent leur chair qui frémit dans nos bras, alors on serre en leur disant tout bas. C'est nous qui sommes les hiboux, les apaches, les voyous, ils n'en foutent pas un coup. Dans la journée, nous flambons nos mirettes, mais le soir, nous sortons nos casquettes. Écoutez ça, vous les rupins, il y aura moins de coquins quand chacun prendra son chemin. Si mon père n'avait pas agi comme un voyou, moi aussi, peut-être elle comme vous.
C'est nous qui sommes les hiboux, les apaches, les voyous. Dans le jour, nous planquons nos mirettes, mais le soir, nous sortons nos casquettes. Nos femmes triment sur le sébasto, pendant que nous, chez le bistrot, dans un coin bien au chaud, on fait sa petite belote avec des mecs comme nous, des coquins, des apaches, des hiboux. Les hiboux, composés par Eugène Joulot et Paul Dalbret en 1926 et enregistrés 10 ans plus tard par Edith Piaf. Les apaches, qui fascinent la société tout entière, archive la Tribune de Paris, 1950, l'ancien apache Fernand Trignol.
Trignol, vous avez connu le milieu d'avant 1914. Pour nous, c'est un monde parfaitement inconnu, puisque même le cinéma ne s'en est pas emparé. Un monde qui se trouve en somme à mi-chemin entre les romantiques mystères de Paris et les gangsters attractions avant. Parlez-nous donc des apaches, de Casque d'Or, des truands de l'avant-guerre. À vous, Trignol.
Ah ben oui, en 1911, madame m'avait foutu à la lourde, hein. Et j'ai commencé dans le 14e, dans la rue de Vanves, qui était le quartier où il y avait le plus de truands. On appelait ça les peaux rouges à ce moment-là, vous savez.
On les appelait les peaux rouges pourquoi?
Eh ben, les peaux rouges, c'était les mecs qui foutaient des coups de flingue, des coups de rapière pour un oui, pour un non. Car à cette époque-là, la mentalité n'était pas la même du tout dans le milieu qu'à présent. Aujourd'hui, les gars s'occupent d'être bien fringués, d'avoir des bagnoles. Ils sont bourgeoises, absolument.
Oui.
Tandis qu'à ce moment-là, les petits barbeaux, les petits casseurs, avaient la mentalité un peu des, comme vous diriez, les mousquetaires de Dumas, vous comprenez? La gloire d'abord, les fringues et l'oseille, comment, après, vous comprenez?
Comment était-il habillé?
Eh, en côte bleue, chaussée d'espadrilles, des bandeaux, des casquettes à joncs, les gonzesses avaient souvent des chaussons, l'hiver des mules, des tabliers plissés, vous comprenez, c'était vraiment comme dans les romans, exactement, bruants, comme on les représente, ou les dessins de Stellen,
oui.
Exactement ça. Puis il y avait les forts, les fortifications, qui apportaient une poésie du tonnerre, les balançoires, les moules, les frites, les litres de rouge à 4 sous, vous comprenez, tout ça donnait une atmosphère qu'il faut vraiment avoir vécu pour le piger.
Ces types ne sont pas des tendres. Leurs femmes, ils les battent souvent, c'est pour eux une marque de virilité. Mais cette dureté n'exclut pas une forme de sentimentalisme, et souvent, ce sont les mêmes qui se tatouent sur le corps le nom de leur belle. Des filles, on en trouve d'ailleurs parmi les bandes d'apaches, même si elles sont souvent minoritaires. Elles prennent parfois part aux mêlées collectives, mais sont le plus souvent envoyées pour bosser sur le trottoir, marmiter sur le ruban pour le compte de leur mac, leur julot casse-croûte. C'est d'ailleurs pour la conquête d'une femme que fin 1901 éclate l'une des plus retentissantes affaires de l'époque, opposant deux souteneurs et patrons de bandes rivales. D'un côté, un certain Lecas, un Corse qui règne sur la Popinque, comprenait la rue Popincourt. Face à lui, Joseph Plaigneur, dit Manda, chef de la bande de la Courtille à Belleville. Ces deux types, âgés tous deux d'une vingtaine d'années, se disputent les beaux yeux d'une marmite, une jeune prostituée appelée Amélie Ellie, et que son étincelante crinière blonde a fait surnommer Casque d'Or.
Quel objet? Bonjour, ma belle.
On l'a trouvé chez Julie.
Oui, ils sont très malins, tu sais. Puis très galants. Des vrais gentlemen.
Ta gueule.
Tiens, tu vois.
Merci, les gars. Attendez-moi à côté, hein.
Non, mais dis donc, t'as changé ta tête de côté. Tourne un peu pour voir. Tu veux pas mal.
Alors, t'es fâché avec ton homme?
Oui, ça te gêne?
Oui.
Quoi?
Je veux pas d'histoire, tu comprends? Dans ma bande, il n'y a jamais d'histoire, c'est mauvais pour les affaires.
Ah.
Alors, qu'est-ce qu'il faut y dire à ton Roland?
Tu veux dire que je l'emmerde?
Répète! Bah répète! Ça t'ennuierait de nous laisser, toi?
Au bout de 2 ans de relations tumultueuses, Casque d'Or a fini par quitter Manda pour Lecas, ce que le premier n'a pas bien pris, tentant d'assassiner son rival un jour qu'il se déplace dans un fiacre. Toutefois, le coup de surin est dévié. S'en suivent pendant des semaines dans les rues de Belleville des rixes entre les deux bandes rivales, à coups de feu ou de lames. Début février, Manda, le chef de la bande de la Courtille, est arrêté. Au juge, il raconte « Vous ne savez donc pas ce que c'est que d'aimer une fille ?» La presse s'empare de l'affaire avec avidité. En avril, c'est Lecas qui est coffré à son tour. À l'issue de leur procès, très médiatisé, les deux prétendants sont envoyés à Cayenne, dont aucun ne reviendra. devenue une célébrité, Casque d'or, elle, écrit ses mémoires où elle dit préférer l'amour tragique de sa bande à cette niaise petite chose faite avec résignation par l'épicière, la mercière et la boulangère de mon quartier.
Je ne porte pas de perlouse, je ne suis pas un nervi. Je trouve que ça fait tartouze, et c'est pourquoi moi je vous le dis, j'ai l'air de ne pas avoir l'air, mais avec mon air je fais la pige à bébé. Je suis un dur, un vrai, un tatoué, je fais pas des manies, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe, j'ai discuté. Car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué, d'un dur, d'un vrai. Quand je joue à la belote au petit bistrot du coin, faut pas m'en mettre plein les bottes, car aussitôt je fais du foin. De quoi? Il n'y a pas de pourquoi. Les autres restent quoi? Alors je dis narquois. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des manies, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe, j'ai discuté. Car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué. Et d'endure dans le vrai. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe, j'ai discuté. Car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué, d'un dur, d'un vrai.
Fernandel, un dur, un vrai, un tatoué, extrait du film Raphaël le tatoué, sorti en 1939. Après le procès de l'affaire de Casque d'or, Paris tient avec les Apaches ses mauvais garçons. Ils fascinent l'opinion, en pleine mode des romans judiciaires et des romans feuilletons. À l'époque, les quatre principaux quotidiens tirent chacun à 1 million d'exemplaires jour. Parmi eux, Le Matin est le plus avide de sensationnalisme et se fait la chronique aussi régulière qu'outrancière de tout ce qu'une ville comme Paris peut rassembler de délinquance. Certains quotidiens instaurent même des chroniques régulières dédiées au Paris Apache. Les illustrés s'en donnent à cœur joie. On disserte surtout sur leurs signes distinctifs, comme ce point bleu tatoué à l'encre de Chine que beaucoup arborent sous l'œil gauche. On interviewe pour l'occasion un certain Médéric Chanu, le tatoueur attitré des Apaches. Mais c'est pour mieux les diaboliser. Tous ces journaux dénoncent le manque de sévérité des autorités envers ces Apaches que la police parisienne, dotée pour l'occasion d'une brigade cynophile et de la célèbre brigade du Tigre, arrête souvent mais relâche aussi vite.
C'est le bal des voyous dans une rue loin de tout, éclairée par un seul réverbère. L'entrée dans une vieille cour qui ne voit jamais jour, le patron baisse toujours les lumières. Les clients jouent les marioles et chaloupent des épaules. C'est le bal des voyous, mais faut pas vous y fier, c'est le bal des voyous au chiquet. Gontran de la Pirandole se fait appeler Julot, Martine la petite fofolle, c'est Nini du Sébasto. Pour inviter à la danse de loin, on fait un coup d'œil comme ça. Pas besoin de révérence, la petite vous tombe dans les bras. Hop là, à l'oreille, une cigarette, et l'on garde la la casquette sur la tête. C'est le bal des voyous dans une rue loin de tout, éclairée par un seul réverbère. On y danse à petits pas, les musettes, les javas, au son d'un accordéon pépère. Le patron a l'air féroce, mais au fond, c'est un bon gosse. C'est le bal des voyous, mais faut pas vous y fier, c'est le bal des voyous au chiquet. Bientôt c'est minuit qui sonne, Monsieur Gontran doit rentrer, quitter la petite Yvonne, pour laquelle il est chippé. Il sent qu'avec elle ça colle, quand elle le regarde dans les yeux, comme ça. C'est bien triste ma parole, vraiment, de quitter tout ça pour que papa fasse pas de reproches. Il remet sa casquette dans sa poche. Adieu bal des voyous, faut repartir à pas de loup, traverser la vieille course en lumière. Ceux qui jouaient les terreurs, dans la nuit ils ont peur. Leur courage est resté au vestiaire. Ces gangsters de pacotille sont contents d'être en famille. Tout à fait entre nous, c'est tout de même bien réglé dans ce bal des voyous au chiquet.
Chanson composée par Vincent Scotto, Le bal des voyous, par Annie Cordy, enregistrée en octobre 1952. Mais alors, comment remédier aux accès de violence de ces voyous? Bien peu tentent de comprendre alors les raisons qui ont poussé ces jeunes à sortir du système, à une époque où l'apprentissage, jadis la voie royale pour apprendre un métier, connaît une crise, voyant de plus en plus de jeunes changer en domestiques de leur patron. De même, peu se penchent sur le désespoir qui conduise nombre d'entre eux à se tatouer sur la peau la phrase « né sous une mauvaise étoile ». Au contraire, en 1910, un médecin, le docteur Lejeune, publie une brochure intitulée « Faut-il fouetter les apaches ?». Il y prône la flagellation des leaders afin de leur faire perdre cette auréole du crime qui faisait leur force et les rendait si redoutables. Dévêtus, ou à peu près, explique-t-il, l'apache expose son anatomie de malingre et de dégénéré. Il se montre tel qu'il est, un être inférieur que seule notre excessive humanité tolère au sein des grandes villes. Le visage glabre, impudent et railleur d'ordinaire se contourne en grimaces d'enfant battu. L'être cynique et moqueur s'humilie, supplie lâchement qu'on lui fasse grâce. Le quotidien Le Matin, qui ne recule devant rien, va, lui, jusqu'à réclamer pour eux la guillotine. D'autres, magistrats ou politiques, prônent la prévention ou l'instauration d'une politique de l'enfance, laquelle aboutit d'ailleurs en 1912 à la création des tribunaux pour enfants. Mais c'est surtout la Première Guerre mondiale qui, en voyant en première ligne et à la mitraille ses mauvaises troupes, mettra fin au phénomène de ceux qu'on avait jadis appelés les Apaches.
Dégonflé, tu n'es qu'un dégonflé. Dégonflé, on dit ça de moi. Dégonflé avec les poings que j'ai. Avec ça, on ne se bat pas. Ils sont toute une bande. Je ne peux pas me défendre. Alors je prends des peignes de tous ces gars qui traînent. Dégonflé, tu n'es qu'un dégonflé. Dégonflé, on dit ça de moi. Dégonflé avec les poings que j'ai. Avec ça, on ne se bat pas. Chez moi, dans mon pays. Chez moi, dans mon pays, on sait prendre la vie quand on est trop petit. On dit un jour viendra. On dit un jour viendra. Dégonflé. Attendez, tu n'es qu'un dégonflé. Dégonflé, on dit ça de moi. Dégonflé avec les points que j'ai. Avec ça, on ne se bat pas, mais tu verras les filles qui me riaient au nez. Et tu verras ces filles se jeter à mes pieds. Et tu verras ces brutes trembler devant mon nom. Et tu verras ces brutes me demander.
Gilbert Bécaud, Dégonflé, enregistré en 1963, ce qui nous ramène à nos années 60.
Avril 1960. Il y a déjà plus d'un an que la France s'est éveillée, elle aussi, à ce nouveau mal du siècle, les blousons noirs. Les blousons noirs, c'est en quelque sorte une maladie de l'enfance. C'est grave, mais c'est peut-être guérissable.
Mais il y a plus grave, les agressions et les hold-up et les vols qui ne sont plus l'œuvre d'adolescents, mais le fait de gangsters avertis.
Depuis le début de l'année, c'est par dizaines qu'il faut compter les attaques, mitraillettes au poing, contre les encaisseurs et contre les pompistes de nuit qui deviennent en ce début d'avril 1960 les victimes préférées des malfaiteurs.
Comme un demi-siècle plus tôt, la France des Trente Glorieuses se retrouve confrontée à une interrogation collective. Que faire de cette turbulente jeunesse qui refuse d'épouser ses modèles de société ? La France, bien sûr, n'est pas la seule à être confrontée au phénomène qui s'est propagé dans nombre de pays. En Angleterre, où les autorités affrontent les Teddy Boys, en Allemagne ou en Suisse, où ce sont les Alpstarken, ou bien les Ragarés en Suède ou en Finlande, etc. Cette jeunesse pour qui la musique constitue un marqueur social. S'opposant à la jeunesse des beaux quartiers qui découvrent la vague yéyé, eux s'abreuvent du rock. Le rock, le dur, le vrai, le seul véritable, celui de Johnny Hallyday ou celui de l'américain Vince Taylor, dont un concert dégénère au Palais des Sports en novembre 61. Des jeunes dont certains s'improvisent musiciens. Ainsi, les membres du groupe Les Blousons Noirs qui, autour d'un certain Tony March, un jour de 62, s'achètent des instruments et enregistrent, l'après-midi même, une poignée de titres dont ce Eddie Sois Bon, qui, malgré son côté brouillon, n'est pas sans charme.
Eddie, réveille-toi, tu dors depuis des heures. Vas-y, dis bien ton avant zéro labeur. Au lieu d'aller traîner dans les boîtes de nuit et de passer ton temps à boire du whisky. Crois-moi, il est bien temps d'apprendre à travailler, car dormir n'est pas un métier. Yeah, 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 alors ça va. Eh eh, dis ça bon, ça bon. 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 Eh, dis ça bon. Le rocker en faux, il chante pendant des heures. Je plains tes voisins, je les plains de tout cœur. Tu es de ces gens qui n'ont pas de soucis. Car tu as du chagrin, tu le dois au whisky. Y'a rien à t'intéresser car tu as décidé de prendre les choses du bon côté. Eh eh, eh, alors ça bon. Eh, dis ça bon, ça bon. Eh eh, dis ça bon, ça bon. Eh, dis ça bon, ça bon. Eh eh, dis ça bon, ça bon. Eh, dis ça bon. Ta fiancée t'entend quand sans toi elle s'ennuie. Ne la laisse pas, c'est d'être gentil. Avant de l'emmener dans tes surprises parties, pour et tout de moi lui demander son avis. Puisque tu l'aimes tant, aime-la pour la vie. Va faire un tour à la mairie. Eh, alors ça bon. Eh, dis ça bon, 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 ça bon. Eddie Sois Bon.
Eddie Sois Bon par le groupe Les Blousons Noirs, 1962. Les Blousons Noirs, les autres, tous les autres, qui, comme pour marquer leur révolte, abandonnent leur prénom de naissance pour adopter ce véhiculé par la culture américaine. Eddie, Twisty, Jimmy, Nevada. Regroupés autour d'un chef, un leader, ils se rassurent via la recréation de mini-sociétés dotées de règles et de codes d'honneur, comme le fait de ne jamais balancer aux flics, de partager équitablement le produit des larcins, et de toujours faire passer les copains avant les filles. Une gonzesse de perdu, ses 10 copains qui reviennent, chantera plus tard Renaud. Pour l'heure, en janvier 1963, c'est Jacques Brel qui prend leur défense.
J'aime beaucoup les blousons noirs. Je les aime beaucoup. Et ces gens, nous, avec notre pognon, avec nos notions de luxe, de confort et de sécurité, qu'on les ait un peu opprimés et tout ça, ça n'a pas rien à voir. Chaque génération opprime la suivante, mais on a fait une chose absolument crapuleuse, on leur a volé le Far West. Ces gens n'ont plus aucun Far West, ni moral, ni même physique. Et là, Nous sommes tous des salauds, mais vraiment tous des salauds. On ne leur a rien laissé. On ne leur a pas donné un seul jouet. On leur a donné des bonnes raisons. On leur a donné une belle discipline. Tout ça est absolument monstrueux. On ne leur parle que de pognon, que de chemin bien droit. Mais on sait tous qu'il n'y a pas de chemin bien droit. On sait tous que ça n'existe pas. On ne leur dit jamais que nous, on a encore peur tous les jours. Personne ne leur dit. On a peur, comme eux, on a peur. On a la trouille d'être insuffisant, d'être lâche. On est embêté parce qu'on est vilain. Et eux aussi sont vilains ou beaux. On ne leur dit jamais tout ça. On ne leur parle que de trucs absolument lunaires. Et j'aime bien les jeunes, vraiment.
Le jour se lève sur ma banlieue. J'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais foutre, nom de Dieu? J'ai pas un rond et j'ai pas l'air sérieux, sérieux. Je suis un loubard parmi tant d'autres. Je crèche pas loin de la défense. J'ai l'air crado, c'est pas ma faute. Mon HLM, c'est pas Byzance. Mon pote, mon pote. À 14 ans, mon paternel m'a fait embaucher à l'usine. Deux jours plus tard, j'ai fait la belle. Pareil que je suis un fils indigne, bordel. Un soir, dans une rue déserte, j'ai fauché une onde à 500. Un fils de bourgeois honnête, avec elle je fonce à 200. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Mon copain Pierrot s'est planté sur l'autoroute un jour de pluie. Parfois je l'entends rigoler, c'est sûr qu'il est au paradis. C'est enflé, c'est enflé. Et moi je continue mon cinoche au pied de ces buildings miteux. Je voudrais crever avant d'être moche. Je voudrais finir comme toi mon vieux Gavroche. Un loubard périphérique, j'en ai plein les bottes de ce bled. La France est une banlieue merdique, comme dit mon copain Mohamed. Aux flics, aux flics. Le jour se lève sur ma banlieue. J'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. C'est drôle, le bitume est tout bleu. Y'a ma bécane qui crame par terre. Bon Dieu, bon Dieu. Oh bon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, oh bon Dieu, oh bon Dieu, oh mon Dieu.
Renaud, la chanson du Loubard, 1977. L'ère des blousons noirs pourtant ne dure pas. Face aux excès, à partir de 63, la lassitude pointe. Cette année-là, le 22 juin, un immense concert gratuit est organisé à Paris, place de la Nation, à l'initiative de Salut les copains. 150 000 personnes se rassemblent, mais parmi elles, des bandes de blousons noirs gâchent la fête, fracassent vitrines et voitures stationnées et s'en prennent aux spectateurs. Paris Presse, le lendemain, titre « Salut les voyous ». La révolte commence à passer de mode, l'heure est aux copains, aux nouvelles idoles yéyé. Même les hippies et les gauchistes fustigent la violence archaïque des blousons noirs, leur machisme d'un autre âge. Le coup de grâce sera porté en mai 68, lorsqu'étudiants et lycéens chasseront les bandes d'ouvriers des agendas médiatiques. Le mouvement des blousons noirs pourtant ressurgira sporadiquement dans les années 70, mais ça tourne mal, comme explique le photographe Yann Morvan, qui pendant 3 ans suit un groupe de bikers parisiens. Il voulait qu'on raconte que c'était des gentils motards, mais ils tuaient des gens. La France, par la suite, connaîtra d'autres mouvements plus ou moins similaires. Les années Loubard des décennies 70-80, les Zoulous des années 90, luttant contre la mouvance skinhead, et puis, plus tard encore, ce seront les Sauvageons et autres racailles. Les efforts entrepris depuis les années 70 pour tenter de réintégrer ces délinquants via une nouvelle génération d'éducateurs spécialisés se heurtent à la volonté de certains de remettre en cause la philosophie protectrice de l'ordonnance de 1945. La justice est tentée par la sanction plutôt que par l'éducation. Les temps passent et, régulièrement, ressurgissent les peurs des bonnes gens, tandis que des groupes de jeunes passent les portes des villes.
Quand tout le monde dort tranquille, dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les zonards descendent sur la ville. Qu'est-ce qui viole les filles, soir dans les parkings?
tu fais au building, c'est toujours les honneurs. Alors, c'est la panique sur les boulevards. Quand on arrive en ville.
C'est sur cette reprise de la chanson de Michel Berger par le chanteur Finn que se referme ce numéro de Jukebox aujourd'hui. Des Apaches au blouson noir, Peur sur la ville, la réécoute, le téléchargement, la bibliographie, la liste des morceaux diffusés, les références des archives et la possibilité d'exporter les playlists, c'est sur franceculture.fr à la page de Jukebox. Une émission préparée avec Pascaline Bonnet, Antoine Villos de la discothèque et Anne Delaveau pour les Archivina. À la technique, Philippe Mercher, Marie Placé à la réalisation. Au micro, Amaury Chardot. Bonne soirée et à samedi 19h pour une nouvelle rediffusion de Jukebox. Thank you.